si la personne, je lui demande, voilà, elle est qu'à 30% de l'atteinte de ses objectifs la dernière semaine, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, tu vois comment la personne réagit. Et là, tu peux te faire une idée sur cet aspect résilience, compétition, qui sont très importants. Mais je dirais qu'avec le temps, c'était pas suffisant. Ou en fait, c'était peut-être pas a priori les top qualités qui allaient faire le succès de mes top performeurs.
Ok.
Et avec le temps, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce qui est primordial, c'est ce qu'on appelle la coachabilité. Donc un SDR qui a vraiment cette soif d'apprendre, voilà, qui se remet en question, qui prend le feedback, qui a cette capacité d'appliquer directement le feedback, pour moi, c'est hyper, hyper important.
Et comment tu le testes ça, toi ? Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline, qui a une super expérience dans la vente. Elle a notamment été directrice des ventes chez Pendesk. Elle a piloté avec brio l'équipe SDR pendant 4 ans, qui est passée de 5 à 50. Grâce à elle, l'équipe à compte exécutif a pu maintenir un pipeline toujours bien rempli et atteindre ses objectifs. On a prévu de parler de pas mal de choses. On va décortiquer les ficelles du métier de SDR. Ensuite, comment faire réussir son équipe de vente et également comment faire face à la pression du chiffre. Hello Adeline, comment tu vas ?
Salut Laetitia, très bien, je suis vraiment ravie d'être avec toi et de passer ce moment ensemble.
Bah écoute, pareil, je suis très contente de te recevoir dans le podcast. En fait, finalement, on s'est rencontrés il y a peu de temps, en fait, parce qu'on est dans le même collectif de freelance Winning by Design France. Et du coup, la première fois que j'ai parlé avec toi, tu m'as parlé de ton expérience qui est assez riche. Et du coup, très vite, je me suis dit que, voilà, que ce serait trop intéressant de t'inviter sur ce podcast, notamment pour parler de management, comment piloter, comment scale une équipe de vente. Du coup, voilà, donc on va commencer d'abord. Présente-toi un peu ton expérience de vente parce qu'elle est assez riche. Et ensuite, on passera au sujet du management.
Oui, alors carrière très sales. J'ai commencé donc moi-même SDR, BDR. Je pense qu'on reviendra aux différentes dénominations, mais vraiment sur l'apprentissage de la vente et qui passe par un rôle sur la prospection. Donc là, ensuite, j'ai eu des rôles en sales, plutôt en account management. Et j'ai eu la chance de travailler dans des très grands groupes sur des sites de vente clons, type Oracle, qui a été d'ailleurs une formidable école de vente. Et également faire de la vente sur des cycles de vente plus courts, notamment chez Rike, qui est une application de gestion de projet, type Monday.com, Instana, qui sont peut-être plus connus en France. Et là également sur un autre modèle, donc cycle court, un modèle avec plus de leads entrants. Parcours assez effectivement riche et puisque la tech et les ventes font aussi voyager, en tout cas on a la chance je pense de pouvoir exercer ces métiers de différents lieux. J'ai passé 7 ans en Irlande et j'ai passé 2 ans à San Francisco, donc un parcours également riche personnellement.
C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as pu faire du sales un peu partout, en France, aux US, en Europe, dans un univers un peu anglophone. Donc j'imagine qu'il y a plein de différences et ce qui t'a, je pense, beaucoup nourri et enrichi. Et du coup, en fait, effectivement, une de tes dernières expériences, celle dont on va principalement parler aujourd'hui, c'est celle chez Spendesk. Aujourd'hui, tu es Fractional Sales Leader. Donc aujourd'hui, tu t'accompagnes des boîtes à essayer de faire la même chose en fait ou d'autres choses, tu l'expliqueras un peu plus sur la partie vente. Du coup, chez Spendesk, tu as dirigé une équipe, tu as commencé en fait avec 5 personnes et tu as fini à 50, ce qui est énorme. Et donc du coup, on va essayer justement de discuter de ce qui s'est passé, comment tu as mené, comment tu as scale, comment tu as géré ça, parce que c'est énorme comme équipe. D'abord, j'aimerais qu'on commence un peu justement sur le métier d'SDR, qu'on explique un petit peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'une boîte à une autre, SDR, c'est pas du tout la même chose. Du coup, déjà, on peut commencer à partir de Spendesk. C'était quoi un SDR chez Spendesk ?
Oui, alors comme on disait, il y a vraiment différentes terminologies. Il y a SDR, donc Sales Development Représentatif, BDR, Business Development Représentatif, Business Developer. Donc voilà, chaque entreprise va mettre une définition différente. Le tout, c'est bien de définir un scope et des responsabilités dans ton cycle de vente. Donc communément, quand on va appeler SDR, BDR, c'est vraiment la génération pipeline. Donc vraiment se concentrer sur la partie prospection. Et l'idée, bah, c'est un peu comme dans le sport ou bah, dans l'athlète, c'est le BDR va effectivement qualifier des opportunités de vente. En tout cas, se dire, bah, cette entreprise-là, on sent profondément qu'on peut les aider avec nos solutions et notre produit. Et du coup, je vais passer le relais à un account exécutif qui, lui, va continuer le cycle de vente pour faire la démonstration, la négociation et assurer le closing.
Ok, du coup, aujourd'hui, par exemple, dans certaines boîtes, moi, ce que je vois, c'est que on a différents types, justement, de scope. Tu vas avoir, par exemple, des boîtes qui vont se dire, ok, moi, je veux une équipe SDR qui va juste choper des rendez-vous et les filer à des AE qui vont faire le travail. Donc, pas forcément le travail de qualification. Et on va avoir d'autres où, en fait, on va avoir, non, le SDR a fait une grosse partie du boulot et, en fait, l'AE va principalement travailler sur le closing. Aujourd'hui, je sais qu'on en avait déjà parlé. Ça dépend pas mal de la stratégie de boîte. Qu'est-ce que devrait choisir une boîte, en fait, comme modèle? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour aller plus vite dans la partie in fine closing, pour closer plus facilement?
Bah en fait, ça va, selon moi, ça dépend de deux variables. La première, c'est la segmentation sur lesquelles de notre marché. Donc, soit on est dit SMB, donc voilà, notre produit va vraiment résoudre des problématiques d'entreprise, je dirais, entre... 1 et les 500 employés. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le mid-market, donc 500 à 2000. Et là, les seuils peuvent être différents selon les entreprises. Et on va appeler vraiment ce qui est grand compte, enterprise, plus de 2000, plus de 5000 employés. Et en fait, il faut se dire, bah, plus on a des cycles de vente courts sur un marché SMB, on a un enjeu en fait de volume, puisque le panier moyen va être plus faible, donc il y a un gros enjeu de volume. Donc, pour aller chercher ce volume, bah le SDR va devoir qualifier des opportunités pour être sûr que l'AE bah, n'ait pas trop en fait, de rendez-vous. L'idée, c'est de filtrer pour la compte exécutive et que lui ait un maximum d'opportunités, mais déjà où il sait que voilà, il y a des challenges à résoudre, l'entreprise est intéressée par ce type de solution. Et au contraire, plus on va aller mid-market enterprise, sachant que là, on va avoir quand même un rendez-vous bah, avec un C-level ou voilà, quelqu'un qui est vraiment décisionnaire, mais hiérarchiquement qui est plus élevé dans l'entreprise. C'est vrai que là, même le SDR ne va pas forcément être armé pour bien qualifier. Donc, il va plutôt avoir une logique de prise de rendez-vous plus on va aller haut dans le segment. Donc, ça, c'est la première variable. Et après, la deuxième variable, elle va être plutôt, je dirais, opportunistique, dans le sens où plus les AE ont pipeline, plus on va qualifier pour justement filtrer et être sûr que les accounts exécutifs se concentrent sur les meilleurs deals. Et auquel cas, dans des moments plus down où les accounts exécutifs ont moins de pipeline, on qualifiera moins parce que ce sera toujours plus simple pour un account exécutif de venir sur un rendez-vous, au moins la personne, le prospect est là, que lui-même, en fait, de faire de la prospection de scratch. Donc voilà, le premier, je dirais, il est lié à votre segmentation. Et le deuxième, il va être plutôt ponctuel selon l'état du pipeline.
Ok, super intéressant. Et moi, j'ai une question par rapport à ça parce que... Moi, je suis de la génération, je sais pas si c'est la génération, mais en tout cas, quand j'ai monté ma boîte, j'avais plutôt une équipe qui était full stack, full sales stack, on va dire, qu'en fait, qui faisait vraiment tout, de la prospection à l'account exécutif, voire même l'account management, jusqu'à que j'ai séparé les équipes newbies et account management. Du coup, moi, je suis de cette école-là où, en fait, j'aime bien me dire qu'en fait, qu'un sales, il sait tout faire. Je sais qu'il y a des boîtes et qui cartonnent, comme celle, comme Spendesk, qui ont eu des modèles où, en fait, on a plus séparé. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est lourd, en fait, pour un prospect? En fait, je me suis toujours posé la question derrière le prospect d'avoir plusieurs interlocuteurs. Justement, j'imagine que toi, tu guidais, en fait, tes SDR, mais comment on fait, en fait, pour que ce soit pas trop lourd et que la personne soit pas déceptive en disant, OK, je parle à quelqu'un, avec qui j'ai eu un bon feeling, qui est un SDR, c'est avec lui que j'ai envie d'avancer, sur la résolution de mon problème. Et en fait, là, je me retrouve avec un account exécutif. Bon, du coup, j'imagine qu'il y a des segmentations aussi également en fonction du secteur et autres. Et voilà, je me retrouve avec une nouvelle personne et je recommence. Est-ce que ça casse pas quelque chose? Comment on fait pour que ça fonctionne, en fait?
Alors déjà peut-être sur le modèle, je pense que de faire ce choix d'avoir un sales qui fait tout le cycle de vente ou effectivement le décomposer, avoir plusieurs personnes, bah, ça dépend de votre canal d'acquisition. Je pense peut-être sur un modèle d'inbound avec des leads entrants, bah, c'est vrai que le prospect voilà, va déjà être éduqué. Voilà, aujourd'hui, il va avoir fait pas mal de recherches en ligne, il va peut-être connaître votre solution. Donc je pense qu'effectivement, un commercial peut faire tout. Le cycle de vente et ce qui évite de faire répéter le prospect. Donc c'est assez fluide pour le prospect, le client et également, on va dire, la compte exécutive. Lui, comme il a les leads entrants, il n'a pas cette démarche
Ouais.
de prospection. Donc lui, en gain de temps, c'est aussi fluide. Par contre, sur un modèle dit outbound, quand on va vraiment chasser des comptes, là, je préconiserais vraiment de spécialiser les sales, parce que je pense quand on a tous fait de la prospection, ça demande quand même un gros travail de recherche, de bien définir justement les cibles, de préparer son pitch. Ensuite, il y a toute l'orchestration de la prospection avec bah, les séquences d'emails, d'appels, les relances. C'est pas forcément le bon timing, donc il faut avoir le suivi de ses leads. Et tout ça, bah, c'est pour ça que le rôle de SDR existe. Bah, c'est un rôle vraiment à plein temps. Et après, je comprends ton point sur la relation client. Bah, là, je pense que c'est comme tout, c'est gérer les attentes. Donc, de dire, bah, écoutez, moi, mon rôle en tant que consultant, c'est vraiment d'avoir ce premier entretien avec vous pour comprendre vos problématiques et voir si on peut vous aider. Peut-être qu'on ne peut pas vous aider, mais voilà, c'est mon rôle. Et auquel cas, si on sent qu'on peut aller plus loin, bah, là, c'est mon collègue qui est en plus expert, lui, produit, que je ne suis pas, qui lui pourra continuer. Donc, voilà, il faut savoir gérer les attentes, effectivement, qu'il y ait une très bonne passation d'informations en interne pour éviter que la compte exécutive repose les mêmes questions. Là, c'est vrai que c'est assez frustrant et il y a une perte de valeur. Mais je dirais quand tout est bien orchestré, pour moi, c'est le plus efficace. Et même pour le client, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée.
Ok, super. Ah bah en fait c'est hyper intéressant et du coup on va rentrer dans parce qu'en fait je pense que effectivement moi j'avais pris ce parti-là en fait d'avoir une équipe qui fait tout le cycle de vente aussi parce que j'ai fait en réalité un test et qui a pas forcément beaucoup fonctionné. J'avais recruté une personne une fois, une autre personne pour justement s'occuper de cette partie-là et j'avais vu que les résultats étaient pas forcément là et donc du coup c'est ça dont j'ai envie de parler avec toi. C'est ok, toi t'as eu une équipe SDR donc des personnes hyper spécialisées sur cette partie-là. Donc, on va parler un petit peu de justement comment tu les as pilotés, comment tu as drivé et comment tu as fait en sorte que ça fonctionne. Donc, déjà, en fait, la question que j'aimerais te poser, c'est que bah, tu as commencé avec 5 SDR. Aujourd'hui, quels étaient les KPI, les objectifs qu'ils avaient de manière précise en fonction bah, voilà, des objectifs de Spendesk?
Ouais. Alors, quand on était au début, donc il y a 4 ans, c'est vrai que le marché, je dirais, par rapport à ce qu'on appelle notre ICP, Ideal Customer Profile, était assez, je dirais, profond, entre guillemets, le marché
Ouais.
était à nous. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de volume. Donc, on était sur 15 opportunités qualifiées par SDR. Et puis, bah, au fur et à mesure qu'on gagnait des parts de marché, qu'on devait aller chercher de nouveaux segments, de nouvelles niches, où au fond, on n'avait peut-être pas forcément encore prouvé notre product market fit. Désolée pour les termes anglophones.
Non, mais du coup, n'hésite pas à les traduire parce qu'il y a des gens pour lesquels, tu vois, ça peut être nouveau. ICP, du coup, c'est le client idéal. Et le product market fit, c'est le fait bah, d'avoir trouvé en fait, enfin, voilà, le perfect match entre son marché et son produit, quoi. Si je
Voilà,
peux le résumer
sachant
comme.
qu'on ne peut pas aider tout le monde, justement,
Ouais.
il y a forcément des entreprises qui auront plus d'appétence et sur lesquelles notre produit répondra mieux. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien justement définir au début, j'irais, au lieu d'essayer d'aller tout chasser. Donc, ce travail en amont de définir ce prospect idéal est vraiment
Hyper
crucial.
important.
Et après, de définir effectivement le segment auquel vous allez déjà vous attaquer. Et comme je disais, au début, on l'avait bien ciblé. Et au fur et à mesure qu'on gagnait des parts de marché, il a fallu aller voir d'autres segments. Et là, on était plus dans l'inconnu, on avait moins de références clients, donc on était plus dans le dur. Et du coup, c'est là où on a baissé aussi les objectifs. Et donc, on était sur 10 opportunités qualifiées et acceptées par la compte exécutive, par
Ok,
SDR,
et ça c'est
pardon.
toi qui en fait qui définis, j'imagine, avec la direction, quels sont les segments que vous allez tester, quels sont les segments sur lesquels vous allez vous concentrer pour justement que tu puisses définir les objectifs par SDR.
Alors, pour moi, c'est un travail de tous les départements.
Ok.
Très important, par exemple, d'impliquer les customer success ou les account managers, donc qui eux connaissent très bien les clients, les cas d'usage auxquels on répond le mieux, et peut-être des clients similaires qui nous connaissent pas, mais justement on pourrait parler de ce qu'on a fait pour des entreprises similaires. Donc je pense que c'est très important toujours d'impliquer la partie client dans cette réflexion. Bien sûr, il y a une partie data. Analyse de marché qui est très importante. Par exemple, chez Spendesk, là où on avait le plus, justement, on apportait plus de valeur, c'est sur des dépenses dites opérationnelles. Donc, c'est toutes les petites dépenses qui s'accumulent, donc qui représentent peut-être que 20% de la valeur en termes de dépenses, mais en termes de volume de dépenses, c'est 80%.
Ok.
Et donc, ce qui était super important, c'était de se dire, peut-être les entreprises de services ont plus ce type de dépenses, alors que les entreprises industrielles, elles sont dans une autre logique. Donc, allons voir les entreprises de services. Donc ça, voilà, c'est notre équipe stratégie, go-to-market, qui pouvait nous donner cette étude. Et effectivement, après, impliquer l'équipe sales, donc aussi bien les accounts exécutifs que les SDA, puisque eux, ils ont vraiment le pouls du marché. Et savent justement des retours terrain, ce qui pourrait marcher, ce qui est apprécié et ce que recherchent aujourd'hui les entreprises.
Donc c'est toi qui fais un peu cette relation-là. Et moi j'ai une question en fait parce que je me suis toujours posé la question et je vois aussi mes clients se la posent. Comment tu définis en fait les objectifs de tes SDR? C'est-à-dire qu'en fait tu as décidé que c'était 15 quand vous aviez une profondeur de marché importante. Ensuite tu réduis. Là c'est un peu plus simple parce que tu sais que tu es en train d'aller chercher de nouveaux marchés, ça sera plus complexe. Mais c'est 15 du départ, tu vois. C'est vrai. Tu vois, alors quand tu montes ton équipe au départ de SDR, la difficulté c'est de dire en fait comment je mets des objectifs. Qui sont réalistes, challenging pour pouvoir porter la croissance de la boîte, mais pas non plus complètement voilà, décourageant si on voit que bah, les SDR, etc. Comment t'as posé ce chiffre en fait, en disant voilà.
C'est vrai que tu peux dire, bon, est-ce que tu l'as sorti de ton chapeau
Mais tu vois, alors, et souvent je dis ça parce que tu vois, j'imagine que tu as déjà discuté avec des boîtes où tu vois par contre le CEO il dit ouais je comprends pas, mon équipe ils se vont pas chercher suffisamment de rendez-vous, moi je pense qu'en fait on pourrait en aller chercher 10. Tu sais pas d'où c'est basé, tu vois. Et toi par exemple, bah tu vas essayer de faire des tests avec l'équipe et tu te rends compte que bah non en fait 10 c'est trop. Parce que on est sur des C-level ou peu importe, mais voilà. Du coup, comment tu l'as sorti ce chiffre?
Déjà, je pense que c'est important de s'appuyer sur des benchmarks. Alors, je suis toujours preneuse de benchmarks français ou européens. J'avoue, sur la partie SDR, je ne les ai pas encore forcément trouvés. Donc, je m'appuie sur des benchmarks qui sont faits aux États-Unis. Et là, il y a un très bon report d'ailleurs que je vous conseille. Ça s'appelle The Bridge Group. Et en fait, tous les ans ou tous les 2 ans, ils sortent des reports vraiment sur la partie SDR ou sur la partie account exécutive. Avec toutes les métriques, les objectifs, les plans de compensation, la durée dans le rôle, le recrutement, la rétention. Enfin voilà, il y a vraiment de la super super data et qui nous aide tous à se benchmarker. Et du coup, je sais grosso modo, par exemple un SDR sur justement quand je parlais du segment enterprise, on va plutôt être à 8 rendez-vous, donc avec ce qu'on va dire le bon persona. Donc ça va être le benchmark est à 8. Sur du SMB, on peut aller entre 10 et 15 selon la profondeur ou non de qualification justement de cette opportunité.
Ok, oh, super intéressant, trop bien. Et donc du coup, maintenant qu'on a un peu parlé de voilà, comment tu positionnes tes objectifs, comment construire tes objectifs avec les différentes teams, ce qui va être intéressant, c'est de trouver les bonnes personnes qui arrivent à aller chercher tes objectifs. Donc, tu as passé une équipe de 5 à 50, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de recrutement. Donc, moi, ça, c'est une question importante parce que justement, c'est quelle typologie de profil faut recruter sur ce type de métier. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un métier sur lequel il faut avoir des gens qui aiment la compétition, qui sont résilients, mais en même temps aussi également qui vont pas s'ennuyer parce que bah en fait tu fais pas le côté un peu waouh en fait du sales, c'est-à-dire de closer un deal. Et donc, ça m'intéresse vraiment de savoir, en fait, quel type de profil tu prenais, comment t'arrivais à leur donner envie de se lancer sur une première expérience désert.
Ouais, très intéressant. Et ce qui me fait aussi rajouter, en fait, c'est aussi pour ça, entre guillemets, que j'ai choisi le management de SDR.
Ouais.
On me dit, bah, Aline, pourquoi pas Head of Sales, maintenant que tu as géré la partie SDR, enfin voilà, tu pourrais gérer toute une équipe. Oui, mais j'adore vraiment cette partie SDR, notamment pour cet aspect people que tu mentionnes, parce que tu vois, on est sur en général des profils jeunes qui sortent d'école ou en tout cas qui ont un petit peu d'expérience. Et je trouve que, en tant que manager, avoir cet impact, parce que forcément, la croissance, l'apprentissage, elle est exponentielle, hein, puisqu'ils ont peu d'expérience, et je trouve ça hyper, hyper enrichissant. Et de se dire à quel point tu peux leur donner goût à la vente ou au management, si c'est les premiers team leaders d'équipe SDR. Et puis après, il y a effectivement cette partie recrutement qui est vraiment inhérent et qui est cruciale. Pour bien gérer une équipe de SDR, puisque à SDR, en fait, la durée moyenne pour rester SDR, c'est 18 mois. Donc, tu sais que tu vas avoir cet enjeu de turnover, avec aussi des enjeux de motivation sur un rôle qui, quand même, requiert beaucoup d'énergie. Donc, c'est aussi ça qui me plaît, et je dirais pas que c'est plus difficile ou plus facile par rapport à la compte exécutive, mais c'est ça, je trouve, qu'il faut savoir anticiper. Et personnellement, j'aurais adoré aussi le recrutement. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être à l'aise à se dire, tu vois, je passais 30 à 50% de mon temps vraiment que sur le recrutement.
Et c'est super, avant de parler des critères que tu choisissais pour la SDR, je veux juste rebondir là-dessus parce que je pense que c'est la même chose pour un Head of Sales, mais évidemment moins important en termes de recrutement. Parce que comme tu disais, on n'a peut-être pas un turnover aussi important, qui n'est pas un turnover lié en fait au fait que les gens sont pas contents de leur boîte ou un problème de culture, mais au fait du métier en lui-même. Du coup, entre gérer tes objectifs, gérer les équipes, gérer les éléments stratégiques, comment tu t'organisais justement cette partie recrutement? Parce que c'est aussi difficile pour un head of sales d'avoir en fait ce truc-là, de se dire en fait, il faut que je m'organise vraiment bien pour rencontrer des gens en continu. Est-ce que tu mobilisais des gens dans ton équipe? Est-ce que tu gérais tout seul? Comment tu faisais cette partie recrutement? T'avais du budget? Enfin, voilà.
Alors, j'ai eu la chance dès le départ, justement, d'avoir un recruteur avec moi. Je sais que c'est pas une chance qu'on a quand on démarre en start-up. Donc, forcément, ça m'a beaucoup aidée d'être accompagnée par ces personnes, parce que j'ai eu plusieurs recruteurs tour à tour qui m'ont aidée. Et après, tu me disais, oui, les profils vraiment qu'on recherchait.
De dire en fait comment tu t'organisais parce que en fait pour te donner un truc alors moi j'avais pas de recruteur et je pense que vers la fin j'ai compris en tant que head of sales que le recrutement était quand même hyper important dans ma structure enfin en tout cas pour que ça fonctionne bien et pour que je me retrouve pas en fait en difficulté sur mes objectifs donc après j'avais fait appel à un freelance justement pour pouvoir me sélectionner les bonnes personnes et moi je passais en fait quand même pas mal de temps à rencontrer régulièrement des personnes, même si j'avais pas en fait de recrutement proprement dit, etc. Donc j'aimerais juste savoir en fait justement quand on a à gérer des potentiels départs, mais les gens sont pas partis. Peut-être qu'il y a des moments, tu vois, c'est ça que parfois qui est un peu difficile, c'est qu'il y a des moments où en fait, t'as peut-être pas de poste, mais il faut quand même que tu rencontres du monde au cas où. Et il faut que tu rencontres du monde parce que peut-être qu'en fait la personne tu vas peut-être pas la recruter maintenant, mais c'est quand même important de faire ce travail en fait d'évangélisation un peu de ta marque pour pouvoir en fait les recruter dans un an. Donc je voulais voir un peu comment toi tu faisais en fait. Est-ce que tu avais une organisation? Est-ce que tu rencontrais souvent du monde? Ou est-ce que tu avais des périodes dans l'année où tu disais, ok, en fait, le Q1 et Q4, je rencontrais des gens. Voilà, comment ça se passait?
En tout cas, chez Spendesk, le modèle faisait que j'étais constamment à recruter. Donc, c'est-à-dire,
D'accord,
je
ok.
pouvais potentiellement chercher 3-4 personnes au moins tous les mois.
Ah oui, ok.
Donc, je n'avais pas forcément à gérer cette saisonnalité. Après,
Ok.
on va dire que c'était plutôt le marché des talents qui a une saisonnalité où, entre guillemets, on sait que c'est plus facile de recruter aux rentrées de septembre ou de janvier. Mais pour répondre à ta question, oui, forcément, j'ai impliqué mes équipes. L'idée aussi, c'était d'avoir un process de recrutement
Ok.
et chaque entretien évaluant des qualités ou une compétence particulière. Là encore, on évite la redondance pour le candidat et de se répéter ou en fait de perdre du temps à évaluer la même chose. Donc, hyper important d'impliquer tes équipes pour qu'elles puissent le faire. Et forcément, toi, tu gagnes sur ta bande passante parce que, comme tu le dis, tu as des enjeux de recrutement, mais tu as des enjeux sur l'onboarding, la rétention des équipes, la montée en compétences avec cet enjeu de turnover. Donc c'est clairement la force d'une équipe.
Ok. Et du coup, tes critères de recrutement, c'était quoi pour les SDR? Parce que, en fait, c'est quand même, pour moi, en fait, des profils bien particuliers, effectivement, avec un mindset bien particulier. C'était quoi tes critères à toi? Pas les critères en général, mais...
Alors, je pense qu'on les connaît tous, c'est assez universel, comme tu l'as très bien cité, hein, l'aspect compétiteur, la résilience. Donc ça, je dirais, il y a des questions types sur lesquelles on peut spotter ça. L'aspect être data, être performance. Donc voilà, est-ce que la personne connaît bien ses chiffres? Est-ce que si la personne, je lui demande, voilà, elle est qu'à 30% de l'atteinte de ses objectifs la dernière semaine, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, tu vois comment la personne réagit. Et là, tu peux te faire une idée sur cet aspect résilience, compétition, qui sont très importants. Mais je dirais qu'avec le temps, c'était pas suffisant. Ou en fait, c'était peut-être pas a priori les top qualités qui allaient faire le succès de mes top performers.
Ok.
Et avec le temps, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce qui est primordial, c'est ce qu'on appelle la coachabilité. Donc un SDR qui a vraiment cette soif d'apprendre, voilà, qui se remet en question, qui prend le feedback, qui a cette capacité d'appliquer directement le feedback, ça, pour moi, c'est hyper, hyper important.
Et comment tu le testes ça, toi, en entretien? Comment tu le testes en entretien ou avec tes équipes? Comment tu arrives à le cerner? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde te dit, ouais, j'adore apprendre,
Coaching.
j'adore. Ils disent pas qu'ils sont coachable, mais j'adore apprendre. Voilà, j'applique très vite les choses. Et puis, en fait, parfois, tu te rends compte dans la réalité que c'est pas forcément toujours vrai, ou en tout cas, ça met du temps avant que la personne ait un peu un mindset un peu humble et comprenne, voilà, que tu as des choses à lui apporter, il faut qu'elle les applique pour que ça fonctionne. Comment tu le testes, toi, toi, en entretien?
Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire un entretien en fait dit technique. Donc en général, c'est un jeu de rôle. Ce qui aussi va tester quelque chose aussi qui est primordial, c'est l'aisance au téléphone, le fait d'avoir cette empathie, cette écoute active lors d'un appel à froid. Parce que oui, pour moi, la prospection est métier de commercial, et ça prend au téléphone et pas par email. C'est important de manier
Okay.
l'écrit. Mais pour moi, un très bon SDR, il sait faire du cold call et il se développe grâce justement au canal du téléphone. Donc voilà, je conseillerais de faire un jeu de rôle, voilà, un cold call, une simulation. Et en fait, l'idée, c'est on fait l'exercice. Voilà, le candidat, ensuite, on lui dit, écoute, je te donne du feedback. On lui donne le feedback et on refait l'exercice. Et en
Okay.
fait, on va avoir effectivement. Déjà comment, comment ils prennent le feedback, et puis après la capacité justement à l'appliquer. Et je dirais que j'ai eu de très bons SDR peut-être qui n'avaient pas été bons sur le premier, parce qu'après tout, ils ont très peu d'expérience, ils n'ont pas de méthode, donc c'est normal. Par contre, une fois qu'on leur a donné les feedbacks, là on s'est dit waouh, en fait,
Ils
si on
arrivent à
les
intégrer
prend,
facilement. Ouais.
exactement. Et donc
OK.
ça, on le spot direct en entretien. Donc ça, je dirais, c'est sur le jeu de rôle. Et après, dans l'entretien en lui-même, quand on a plutôt une conversation, là, comme tu disais, c'est dire, voilà, moi, je suis très curieux. C'est tout de suite, en fait, dire, ah, très bien, et est-ce que tu aurais un exemple où justement, tu as fait preuve de curiosité? Et en général, quand on demande des exemples concrets, soit c'est parlant et c'est vrai, soit en fait, on peut se dire, non, la personne, en fait, voilà, en plus, si c'est un sales, il sait bien se vendre. Mais derrière, il n'y a peut-être pas forcément l'expérience qu'on cherche.
Ok, bah, très très cool en tout cas comme manière de procéder pour un peu capter cette partie-là. Moi, j'aimerais juste en fait te poser une question en fait aussi également qui me trotte parce que on va en parler tout à l'heure sur la partie formation onboarding et justement tu utilises quand même pas mal les jeux de rôle il me semble pour former en fait les personnes. Toujours sur cette partie recrutement, je sais qu'on a eu une discussion et ça va avec, avant de parler de l'onboarding et du moment où tu les formes, on a parlé de cette dimension rémunération. Moi, je sais que je peux avoir peut-être ce côté un peu caricatural de dire, voilà, pour moi, un sales, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et toi, tu me disais qu'en fait, oui, évidemment, en tout cas, pour toi, t'allais pas t'attarder sur un profil pour lequel c'était que ça qui était important. Et donc, j'avais vraiment envie de creuser ça avec toi, parce qu'en fait, j'ai envie d'être aussi également, voir en fait ce qui marche, ce qui fonctionne, parce que peut-être que ma manière de penser, ma manière d'avoir recruté n'était pas forcément sur les critères la meilleure. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, voilà, si quelqu'un me parle pas d'argent de manière assez importante pendant un recrutement et qu'il est sales, ça va être un espèce de red flag pour moi. Mais en même temps, depuis que je fais ce genre de discussion avec pas mal de gens, je vois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas ce truc-là. Et ils ont des équipes qui fonctionnent et ils ont eu de très bons résultats. Donc vas-y, du coup, parle-moi de ça un peu, comment tu procédais en termes de rémunération chez Speddesk et comment tu les motivais à en rentrer en fait dans ta boîte, quoi.
Ouais, bah là, ça va dépendre des profils et des drivers de chacun. Donc, sans jugement, les drivers, ils sont propres à chacun. Ça peut être l'argent et c'est totalement OK, tu vois. Mais je pense que, justement, c'est super important, en tout cas en tant que candidat, de faire cette recherche en amont et de se dire, OK, quels sont mes drivers et potentiellement, quelle typologie d'entreprise pourrait répondre à ces drivers et m'épanouir. Donc, on va dire, si effectivement c'est l'argent, ben on va pas se le cacher. Aujourd'hui, on va travailler pour une boîte américaine, plutôt assez grande en général. Voilà, on sait qu'elle paye mieux. Et voilà, sur l'aspect financier, je pense qu'on va être plus satisfait que si effectivement on va en start-up et en early stage, qui elle en fait va avoir d'autres arguments que cet aspect financier. Donc, sachant ça, moi évoluant bah, dans un univers, enfin j'ai travaillé pour des grands groupes américains, mais maintenant évoluant dans des startups, ce que je recherche, et je pense aussi les profils que j'ai pu recruter, c'est plutôt en fait cette notion d'impact et de développement des compétences. Aujourd'hui, travailler en startup, c'est la capacité de se dire, c'est génial, je vais apprendre la vente, je vais apprendre le métier de SDR, je vais grandir avec la boîte. Mais aussi, je vais développer peut-être des compétences parce qu'on, je vais être impliquée dans le processus de recrutement. Je vais être impliquée dans le processus de mentoring et d'onboarding de mes collègues. La direction sur, voilà, c'est top. Aujourd'hui, on a Lean ou on a le country manager ou on a même le CEO qui, de manière très transparente, bah, vient faire un Q&A avec nous, prend 15-20 minutes pour répondre à nos questions. Donc, il y a cette proximité et cette sensation d'impact. On l'a en start-up, on l'a sans doute moins dans les grands groupes. Mais voilà, tout est une question de driver et bah, ce qui nous motive au quotidien, quoi. Donc, enfin, je sais pas si du coup ça répond à ta
Si
question.
c'est à répondre à une question sur la partie driver, mais je
Non,
sais
mais...
que toi, en fait, du coup, sur cette partie-là, en fait, tu me disais en fait de manière que t'as envie de sortir du cliché du sales qui est drivé forcément par l'argent, et du coup, t'avais en fait des gens dans ton équipe qui en fait n'étaient pas forcément drivés par ça, donc plutôt par l'impact de ce que tu me dis. Et du coup, est-ce que tu voyais vraiment une vraie différence? Est-ce que t'as déjà vu la différence entre des SDR que tu as eu dans ton équipe qui étaient vraiment drivés par l'argent et du coup, tu te rendais compte que bon, ils étaient bons, mais pas tant que ça, et d'autres qui étaient drivés par d'autres choses et que du coup, il y avait de meilleurs résultats ou une meilleure implication, enfin, je sais pas.
Alors, je dirais que tu peux être, en tout cas de ce que j'ai vu, tu pouvais être drivé par l'argent et être très bon en
OK.
tant que et aussi très esprit d'équipe. Donc, c'est pas incompatible. Néanmoins, je pense qu'à un moment donné, ces personnes ont eu certaines frustrations parce que, bah, par exemple, niveau rémunération, comme je dis, en start-up, on va plutôt bah, miser sur d'autres arguments
Ouais.
ou aussi de se dire, bah, même si tu es top performer, moi, justement, je vais plutôt te mettre en avant sur des projets, te responsabiliser, te mettre dans des projets plus stratégiques, versus en fait t'augmenter sans cesse. Ou en fait, je trouve aussi que ce serait pas forcément juste par rapport aux autres de l'équipe. Et en fait, tu crées des inégalités, tu perds bah, ta grille de salaire qui pour moi doit être homogène, transparente et les mêmes critères appliqués à tout le monde. Donc c'est aussi dans ça que je voulais pas rentrer en me disant certes cette personne elle va être récompensée parce que de toute façon elle sera promue mais elle sera promue bah, sur des critères qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors si elle top performe elle va avoir des accélérateurs donc elle aura toujours un super bonus et entre guillemets normalement elle devrait se satisfaire de cette reconnaissance et de ces récompenses et en plus on va lui offrir cet aspect de développement de compétences en s'impliquant sur d'autres choses quoi.
Ok, et du coup, toi, concrètement, avant qu'on passe à la partie onboarding, comment tu les motivais au quotidien, etc., justement, quels sont les autres leviers que tu avais pour gérer la rétention? Parce que 18 mois, c'est court. Et je pense que ton objectif, c'était de les avoir pour les 18 mois et pas qu'ils partent un peu avant. Bah, du coup, tu en as parlé un peu, tu as des accélérateurs tels que les bonus, etc. Et qu'est-ce que tu mettais en place justement pour les motiver au quotidien?
Alors, je pense que tu vois sur les 6 premiers mois, si effectivement, comme je dis, bah au niveau du recrutement, t'as pu recruter des personnes qui ont vraiment cette soif d'apprendre. Ensuite, il y a eu ce passage, bah ce qu'on appelle l'onboarding, donc qui est plus ou moins formalisé, bah selon le stade de croissance de ton entreprise, parce qu'au début, bah quand tu démarres, c'est normal, c'est peut-être chaque sales qui va faire un workshop, tout va peut-être pas être super formalisé, mais t'as quand même ce partage de connaissances, d'expertise métier et cette montée en compétences. Donc, le SDR, en général, met 4 mois, ce qu'on appelle être enfin, opérationnel. Donc,
OK.
faut du coup savoir que bah, pendant 3 mois, bah, la personne, elle est encore en apprentissage.
OK, du coup pour toi le ramp-up chez Spendesk c'était 4 mois. C'est quelque chose en fait pour toi c'est une tendance notamment par rapport au benchmark que tu as pu toi consulter etc. ou c'est vraiment spécifique, c'était spécifique à Spendesk, pour d'autres boîtes ça peut être 2 mois, 1 mois.
Non, là, c'est vraiment les benchmarks,
OK.
mais ça s'appuie aussi sur l'expérience ou bah déjà, enfin la partie intégration, ce qui est super
Okay.
important de bien connaître les équipes, mais aussi les équipes autour des sales. Bien sûr, la montée en compétence sur le produit, les techniques de vente, et après, bah, c'est toute cette construction de pipeline qui se fait. Donc ça, c'est peu importe, je dirais, le segment ou les entreprises. C'est vraiment 3 mois de ramp-up et c'est vraiment au 4e mois où effectivement on peut dire voilà, la personne là est vraiment opérationnelle et peut être à réaliser 100% de ses objectifs.
Okay, nickel. Donc du coup pour toi l'onboarding était un facteur de motivation pour toi qui permettait de c'est intéressant de le voir comme ça, c'est-à-dire que bah, du coup on va rentrer directement parce que pour avoir monté une équipe aussi grosse c'est, je pense qu'il faut être hyper structuré sur la partie formation onboarding de départ. Du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment tu construisais en fait l'intégration, avec qui, comment ça aussi c'est des enjeux importants. On a l'impression que enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes qui bâclent cette partie-là énormément. Je pense c'est pour ça que je trouve intéressant que tu dises que ça dure 4 mois. En fait, d'avoir le ramp-up, évidemment, ils vont prendre des rendez-vous avant 4 mois, mais c'est au bout de 4 mois qu'ils sont vraiment genre en mode OK, full opérationnel et au max de leur performance, quoi.
Exactement. Et du coup, je me rappelais, j'ai évoqué ça, en fait, je voulais dire que bah, cette lune de miel, cette courbe d'apprentissage, elle est 6 mois. Et je pense que sur des enjeux de motivation, c'est vraiment au bout de 6, 7 mois où là, effectivement, il va falloir actionner d'autres leviers et continuer à les faire grandir. Parce que c'est là où, par expérience, j'ai vu la motivation pouvait
Baisser.
baisser. Mais sur l'onboarding, du coup, comment on l'orchestrait? On s'appuyait à la fois donc sur la théorie des workshops pour justement donner des méthodes et aussi bah, beaucoup beaucoup de jeux de rôle, de pratiques, de shadowing parce que comme je dis c'est vraiment la culture du feedback, les retours qu'on te fait qui fait que bah, tu vas monter en compétences beaucoup plus vite. Donc ce qu'on faisait c'était bah, les 2 premières semaines c'était plutôt l'intégration. Donc, des workshops avec le marketing, l'équipe opération, et voilà, vraiment comprendre tout l'écosystème, tout le fonctionnement de l'entreprise, la vision, la mission de l'entreprise, et en même temps, bah, faire connaissance, pareil, avec toutes les personnes. Et puis après, au bout de la 3e semaine, là, on était vraiment technique de vente, outils, process, pour acquérir cette connaissance, et en même temps, on faisait des jeux de rôle. Donc là, on impliquait les seniors de l'équipe qui, eux, pouvaient faire ces jeux de rôle et en même temps donner du feedback aux personnes. Et quelque chose aussi qui est super important, parce que ça, on a vu avec le temps qu'on avait peut-être fait une erreur, en fait, les SDR n'appelaient qu'au bout d'1 mois.
OK.
Et on voyait, en fait, que ça créait, en fait, ça... ça mystifiait l'exercice. Et en fait, dès lors qu'on a changé et qu'on a dit au SDR, bah, tu vas appeler, passer tes premiers appels fin de première semaine ou dès la deuxième semaine, alors oui, il y avait un stress qui se crée. Mais là, c'était à nous de les accompagner, les rassurer et leur dire, bah, tu sais quoi, en fait, le meilleur appel à foi que tu puisses faire, c'est pas en pitchant ton produit, mais c'est en posant les meilleures questions ou en gérant les objections. Et du coup, c'est OK, en fait, même si tu connais pas encore le produit et tu vas très bien te débrouiller. Et du coup, voilà, plus on les mettait rapidement au téléphone, plus on baissait cette appréhension. Et en fait, plus aussi, bah, on voyait, ils étaient opérationnels plus vite.
En fait, je pense que tu as raison. Et en fait, moi, je sais que j'avais fait la même erreur. En fait, j'avais un espèce de gros plan d'action, de plan d'apprentissage, etc. Et après, je leur disais, bah, c'est bon, maintenant, tu peux aller dans le bain. Et justement, en fait, tu avais ce truc-là. Alors que, et du coup, tu as répondu un peu à une question que des choses que je pouvais avoir en onboarding, quand tu faisais des jeux de rôle, tu vois, genre, parfois, tu peux avoir du stress de la personne en disant, ouais, mais là, en fait, parce que c'est toi, j'ai du mal, tu vois, en situation réelle, j'y arriverai mieux, etc., etc. Et du coup, en fait, en fait, tu dis, OK, si t'as un peu plus de mal avec moi, parce que bah, t'es quand même le manager, donc t'as envie de faire parfait. Enfin, surtout, on a la culture, toi, t'as vécu plusieurs cultures, mais la culture française, faut être parfait avant de faire quelque chose. Donc, voilà, tu peux avoir ce stress, alors que, en fait, mêler le fait qu'ils sont en situation réelle, et en situation avec toi, ça permet justement de d'avancer plus vite, je pense, à la fois dans les jeux de rôle et dans le fait de, ok, c'est bon, voilà, on stresse pas. Et en plus, j'aime bien en fait le fait aussi de dire que moi, je pense que les réussites, elles marchent parce que en fait, surtout sur de la vente, c'est très dur à se dire, mais en vrai, dans la vente, pour que ça marche, que ce soit du closing ou de la prise de rendez-vous, bah faut que tu rates des trucs en fait. Faut que tu te prennes des. Enfin voilà, peut-être qu'il y a une petite insulte que tu vas te prendre parce que t'as mal pris ton approche n'était pas bonne. Mais du coup, en fait, justement, ça va te marquer à vie et tu vas dire, ok, bah, là, il faut que je choisisse mon
Plus jamais
approche.
ça. Ouais.
Tu vois, genre. Donc je pense que en fait, t'as raison là-dessus. Et moi, une question que j'ai, parce que tu mobilises. En fait, je sais que dans les startups, un peu, dans les scale-up, hein, parce que je ne sais pas si on peut dire que Spendesk, c'était une startup, mais scale-up, on va dire. Mais du coup. La mobilisation de l'équipe, tu vois. C'est super dur, en fait, de mobiliser une équipe en disant, surtout que toi, en fait, t'es avec quand même deux à trois recrutements par mois. Donc, en fait, des onboardings très régulièrement. Donc, ça veut dire que tu mobilisais des gens tout le temps. Comment tu faisais pour qu'en fait, dans la tête, c'est encore un aspect de motivation, mais dans la tête de l'ensemble de l'équipe, et j'imagine que tu mobilisais des gens du produit, des gens d'autres équipes, ils se disent, OK, en fait, c'est mon affaire aussi, le fait que l'équipe SDR, soit bien formée. Comment tu faisais en fait? Je sais pas si.
Bah là, on revient effectivement au driver et au profil. Donc, on était effectivement transparent dans le process de recrutement en disant bah, on va rechercher forcément la performance individuelle, mais être performant chez Spendesk, c'est aussi contribuer au succès de l'équipe. Et ça, aussi bien dans le process de recrutement et dès lors que la personne nous rejoint, c'était bah, voilà, aujourd'hui, bah, tu es en période d'essai. Il y a aussi bah, des cycles des entretiens annuels. Qu'est-ce qu'on va regarder? Bah, il y a trois piliers. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le drive. Donc, c'est vraiment les moyens que tu vas te donner pour réussir, la prise de feedback, l'application des feedbacks. Deuxième pilier, la performance. Voilà, aujourd'hui, tu as des objectifs et c'est vrai qu'en sales, ben, c'est assez direct. Donc, l'atteinte ou non de ces objectifs. Donc, là, le nombre d'opportunités créées qu'on a pu mentionner auparavant. Et troisième pilier, aussi important que les deux autres, qui est la culture, les valeurs de l'entreprise, de Spendesk et comment tu vas pouvoir y contribuer. Et imaginons, ça c'est pas arrivé, mais justement l'idée c'était de se prémunir de personnes qui peut-être auraient fait 200% de leur objectif sur l'aspect performance opportunité, mais qui seraient plutôt individualistes, sans justement donner du temps pour l'entreprise ou pour les autres, bah, ne pourraient pas être promus. Et donc
Ok, d'accord.
ça, ne serait-ce que tu vois justement de le mettre dans les attentes des entretiens annuels, les attentes pour dire voilà tout simplement qu'est-ce que un sales performant, et du coup ce qui va amener à des promotions, donc des augmentations de salaire,
Ouais, bah oui.
bah, au moins les règles du jeu sont claires et voilà comme je dis c'est selon tes drivers te dire bah, est-ce que c'est le cadre, l'environnement qui me convient pour que je m'épanouisse. Pour certains oui, pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, c'était le cas chez Spendesk.
Ouais, mais du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que ça permet vraiment de construire une vraie culture de boîte, une équipe sales solidaire et de se dire, en fait, voilà, en tout cas, de pas, en fait, avoir cette vision un peu bisounours de dire, voilà, il faut une culture où les gens s'entraident, etc., et on le dit un peu comme ça, mais que ce soit aussi également dans les objectifs, que ce soit dit, et en disant, bah, en fait, pour nous, un bon sales, c'est pas quelqu'un qui fait juste ses chiffres et qui performe, c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire monter en compétence des gens, quoi. Donc, c'est très cool.
Et ça, je
Vas-y.
dirais, c'est d'autant plus important dans un modèle de, enfin de, voilà, de start-up où, comme on l'a dit, bah, voilà, tu n'as pas encore des ressources type des gens aux opérations ou ce qu'on appelle le sales enablement, donc vraiment des gens dédiés à la formation des équipes commerciales. Donc, en fait, cette formation, entre guillemets, elle repose sur les épaules de l'équipe de vente. Donc, voilà, donc il faut trouver les moyens, effectivement, de mobiliser tes équipes pour qu'elles y contribuent, parce que de toute façon, tu n'auras pas les ressources pour le faire. Et du coup, c'est primordial au début pour justement répartir les ressources. Et après, je dirais, c'est primordial au fur et à mesure, justement, que tu as ces ressources. Là, ce qui est génial, en fait, c'est la culture d'équipe que tu as pu instaurer et qui est là depuis le début. Tu vois, même moi, on va dire au bout du centième SDR qui venait et qui te dit moi c'est génial, en fait c'est encore mieux que ce que vous m'avez dit dans le process de recrutement et c'est fou comment les gens t'aident et que d'autres plus seniors qui sont là depuis 3 ans te disent moi en fait c'est normal parce que c'est ce que j'ai vécu et j'ai tout simplement envie de leur donner.
Waouh.
T'es dans le cercle vertueux et ça par contre faut se dire c'est jamais jamais acquis, donc c'est pour ça que c'est super important de l'inscrire sur les attentes, ce qu'on appelle la performance d'un sales.
Ok. En tout cas, bravo parce que c'est pas facile à garder ce genre de culture sur la durée. Je le sais, donc, vraiment c'est chouette. Et alors, moi j'aimerais juste maintenant qu'on parle un peu de justement de t'as parlé de avant de parler un peu du sujet cœur qui m'intéressait, hein, et je pense que c'est sur cette base-là qu'on avait décidé de discuter, c'était la pression du chiffre. Avant ça, justement, j'aimerais qu'on parle de ce que tu as dit, en fait, que tu avais un peu vu qu'il y avait un peu une baisse de motivation au 7e mois, 8e mois. Du coup, j'ai l'impression que toi, tes leviers de motivation, c'est beaucoup la formation, c'est beaucoup l'apport, en fait, de nouvelles compétences. Comment tu faisais, justement, pour faire remonter, en fait, un peu, rehyper, d'une certaine manière, ton SDR? C'était
Ouais,
quoi tes
bah,
leviers?
je pense que déjà, en termes de compétences, on le vit tous. Au fur et à mesure qu'on s'inscrit dans le rôle, le scope, entre guillemets, qu'on nous a attribué, on est en maîtrise. Et en fait, le jour où on sent on stagne, où on n'apprend plus, où il y a une certaine redondance, on tombe dans l'ennui, on se pose des questions, on arrive à moins se projeter. Et en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Pour éviter d'en arriver là, c'est toujours de se dire, voilà, je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Comment je me projette sur les 3 prochains mois, 6 prochains mois. Donc là, en boîte à outils, je dirais, c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle un career path. Donc c'est dessiner ce que serait la carrière d'un SDR. Donc nous,
OK.
par exemple, on l'avait décomposé en 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc quand tu rejoignais Spendesk, tu étais niveau 1. Et puis, comme je disais, au fur et à mesure que tu pouvais être performant sur les 3 piliers que j'ai cités, tu pouvais être promu, passer au niveau supérieur. Et en fait, à chaque niveau correspond des compétences requises.
OK.
Et donc, en fait, quand tu es niveau 1, forcément, tu souhaites passer niveau 2. Et tu sais, en plus des critères des 3 piliers, exactement les compétences à développer. Et en même temps, tu dis, effectivement, c'est des critères pour avoir ma promotion, mais aussi ça qui va me développer et faire que demain, je vais être un meilleur sales. Et in fine, c'est même ça qui va faire que, au fur et à mesure, une fois que je serai SDR niveau 3, en fait, ça veut dire que je serai prêt pour être à compte exécutif. Donc moi, effectivement, j'avais la chance chez Spendesk d'avoir un modèle où les SDR passaient à compte exécutif, parce que le fait qu'on était sur un segment dit SMB,
Ouais.
on n'avait pas besoin d'un compte exécutif avec 10 ou 15 ans d'expérience. Donc en fait, notre pool de talents était les SDR. Et c'est vrai que eux disaient, en fait, 18 mois, quand je vois toutes les compétences que je vais acquérir au sein des différents niveaux, en fait, c'est normal et c'est trop bien parce que le jour où je passerai à eux, je serai prêt, quoi.
En gros, tu crées en fait une vraie école de vente, quoi. En vrai, Spendesk, tu as créé en fait une vraie école de vente. Ce que tu disais au départ, c'est que toi, tu voulais être team lead et gérer des équipes SDR aussi pour cet aspect-là, de les avoir. Et en fait, en réalité, c'est qu'à la fin, et voilà, je suis, en fait, j'ai fait une interview avec un jeune sales et il disait en fait l'importance de choisir sa bonne écurie au départ. Et du coup, en fait, c'est, on va dire que Spendesk, en fait, la manière dont tu t'essayes de créer une écurie où, en fait, t'es des gens qui soient prêts à être des super AE pour Spendesk ou pour d'autres boîtes, mais voilà. Et du coup, ils le voyaient comme ça et ça leur permettait de se motiver. En tout cas, c'est hyper cool. Et justement, j'ai envie qu'on parle maintenant parce que là, on est sur les côtés un peu positifs, etc. Mais en fait, j'imagine, en fait, que dans la vraie vie, SDR, c'est pas facile et encore plus, j'imagine, de gérer une team SDR parce que t'es vraiment au début de la chaîne. Et en fait, bah, si toi tu réussis pas, bah, du coup, les AE réussissent pas. Et si les AE réussissent pas, au niveau AM, ça va être compliqué, account management, et au niveau chiffre global aussi. Donc, t'as quand même une grosse pression sur les épaules. Donc, on avait parlé un peu de ça, la pression du chiffre. Moi, c'est quelque chose, en fait, que je trouve qui est très peu abordé. En tout cas, ça, comment on fait? Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour gérer, justement, les lien avec les équipes pour calmer les équipes quand ils ont l'impression de que ça va pas, voilà. Donc du coup, je sais qu'on a pas mal parlé de ça et du coup j'aimerais un peu avoir ton point de vue, comment on fait pour gérer cette pression du chiffre, de faire en sorte que toi tu le gères mais aussi également que tes équipes le gèrent.
Ouais, alors effectivement en sales, en vente, on est vraiment les premiers responsables d'aller chercher des nouveaux clients et directement en charge de faire rentrer le chiffre d'affaires, donc entre guillemets, on reçoit la pression de manière directe. Moi, je l'ai toujours vu, en fait, d'une bonne augure. Et en fait, on va revenir à cette notion d'impact. Et ce qui était assez puissant, justement, sur les moments down de l'équipe, où se dire, ouais, je suis dans le jus, j'ai passé 200 appels, j'ai pas décroché un seul rendez-vous. Voilà, il y a des tendances macro, la crise économique, super dur. Et en fait, là, en général, ce qui remettait un coup de boost aux équipes, mais aussi à moi-même, c'était de reprendre ce qu'on appelait un petit boost de vision et de se dire, mais en fait, mais pourquoi on est là, en fait? Et quand on avait notre CEO qui pouvait nous dire en quoi on aidait des milliers d'entreprises, quels étaient les challenges on les aidait à résoudre. Donc là, Spendesk, qui est une plateforme de gestion des dépenses opérationnelles, typiquement, on pouvait enlever toutes les frictions liées au remboursement des notes de frais. Donc c'est vrai, c'est de se dire, en fait, ne te considère pas forcément comme un sales qui doit faire son quota, mais voilà, vraiment comme un consultant. Et en fait, le fait que tu n'appelles pas, tu ne vas pas aider des entreprises et tu sais au quel point que aller réclamer sa note de frais, c'est frustrant aussi bien pour le département finance et ton comptable que pour toi et de faire cette avance. Donc voilà, mais toi, voilà, dis-toi que tu vas plutôt aider des entreprises.
Et des gens, parce que je pense qu'on a tous perdu, on a tous perdu plein d'argent parce qu'on n'a pas donné de frais à temps, on n'avait pas un process hyper cool, donc aussi des gens, en fait, des boîtes.
Ouais. Donc, et du coup, là, tu remets un peu d'humain voilà, l'impact, encore une fois, du rôle de SDR, vu plutôt comme consultant. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect vision, la mission, mais pourquoi je me lève le matin et pourquoi je prends mon téléphone. Et après, comme tu disais, comment tu fais pour ensuite redonner ce coup de boost? Alors moi, c'était en fait ce moment down, le fait qu'on fait pas nos chiffres, déjà, c'est dû à quoi? Donc c'est aussi très important aussi de pouvoir piloter son cycle de vente et d'avoir de la data. De se dire voilà combien je prends de rendez-vous ce mois-ci, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle de la team, c'est quoi les taux de conversion entre la prise de rendez-vous et pouvoir continuer le cycle de vente. Donc tout ça, on voit des tendances et en fait une fois qu'on premier réflexe sur les moments down, je regarde la data. Si effectivement je me dis peut-être que je trouve pas d'explication, et c'était le cas par exemple niveau Covid. En fait, ça, c'est ce qu'on dit, c'est un élément que tu contrôles pas. Ça tombe dessus, tu contrôles vraiment rien. Donc là, effectivement, c'est à moi, en tant que manager, là, d'aller voir ma direction et leur dire, écoutez, étant donné la situation, étant donné le moral des équipes, je pense qu'il faut absolument baisser les objectifs parce que on va plutôt les démoraliser et obtenir beaucoup moins des équipes si on laisse les objectifs tels quels. Donc ça, c'est ce qu'on contrôle pas, et ce qu'on contrôle pas, c'est toujours à moi d'aller résoudre le problème. Ou si par exemple on n'a pas de la bonne qualité de données sur nos listes de prospects, hein, pareil, c'est pas au SDR d'aller chercher de la data par lui-même, c'est une perte de temps. Donc c'est à moi de travailler avec les opérations, en tout cas de trouver les moyens d'enlever ces tâches administratives et entre guillemets de leur servir vraiment des listes de top top qualité pour que eux se concentrent en fait sur l'essentiel qui est la vente. Donc voilà, il y a ce qu'on contrôle, ce qu'on contrôle pas. Ce qui arrivait souvent quand même, c'est nous ce qu'on contrôlait. En tout cas, moi je le contrôle par exemple avec en travaillant avec les opérations sur des process ou de la qualité de la donnée. Ou au niveau SDR, c'est de se dire bah, je regarde effectivement mon taux de conversion qui a chuté. J'écoute mes appels. Ah, bah, j'ai vu peut-être que j'étais moins assertif sur ce qu'on appelle la next step. Donc, l'idée, c'est bah, toujours sur un appel de prospection de caler une date et un moment pour reparler au prospect. Et par exemple, bah, SDR peut dire, ah, ouais, effectivement, c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus laxiste. Je lui disais qu'on se rappelle le mois prochain. Et en fait, j'ai vu que là, eh ben, j'arrivais plus à faire de relance, il n'y avait pas un bon suivi, ça convertit moins. Et en fait, ça, je le contrôle. Donc après, j'ai diagnostiqué, je sais où ça pêche. Et du coup, bah, après, je mets en place la formation nécessaire ou la rigueur pour me concentrer et revenir au niveau où j'étais avant.
Et alors, j'ai vraiment envie de m'arrêter à ce point parce que je pense que le problématique de nous tous ou tous les gens qui ont été amenés, en tout cas, à manager en fait des personnes qui prennent cette partie rendez-vous. Moi, je suis d'accord avec toi. La prise de rendez-vous, c'est le canal, c'est le cold call. Encore plus aujourd'hui, hein, avec les peu de perfs qu'on peut faire sur la partie cold email. Mais en fait, comment tu fais? Et là, je te pose une vraie question, même pour moi. Donc, comment tu fais pour faire en sorte que de pas être contrôle freak avec les gens sur le nombre d'appels qui passent? Tu vois, parce que, en fait, OK, tu mets que tu as, OK, allez chercher 10 rendez-vous par semaine. Voilà, je vous explique exactement pourquoi je pense que vous pouvez aller chercher 10 rendez-vous par semaine. Ça, c'est hyper important, évidemment, que les gens comprennent que l'objectif est atteignable. Mais comment tu fais pour ne pas être, genre, derrière, en fait? Comment tu fais pour t'assurer? Parce que, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, je sais pas s'ils passent des calls. Est-ce que, alors, évidemment, tu as des trucs pour être traqué, mais parfois, tu peux avoir, en fait, une baisse de motivation, même si tu as mis tout en place, etc. Comment tu faisais justement pour te dire, OK, je diagnostique, j'écoute les calls, comment je fais pour derrière faire en sorte que la personne n'ait pas l'impression d'être traquée, quoi? Je te pose une vraie question parce que je l'ai déjà eu, en fait, ce truc-là de, tu vois, parfois tu écoutes des calls, tu dis, voilà, en fait, là, je sens qu'avant, tu étais super parce que tu faisais ça super bien et tu vois, ça marchait. Là, ça marche moins bien parce que, bah, parfois, c'est une prise de confiance, mais ça nous arrive à tous, on a l'impression de gérer, donc on fait moins attention à certaines choses. Voilà.
Bah déjà au niveau tu vois des métriques surtout sur un rôle de SDR voilà t'as pas passé tes appels il faut que tu fasses is call aujourd'hui cette semaine c'est vrai que ça peut être comme tu l'as dit très control freak c'est micromanagement en même temps ces objectifs ils sont nécessaires
OK.
parce que bah, un cycle de vente c'est des étapes de vente comme je disais avec des taux de conversion donc si aujourd'hui par rapport à ton cycle de vente, tu sais que 150 appels par semaine t'amènent tes 10 opportunités. Bah, le jour où tu fais 120 appels, mathématiquement, tu ne pourras pas faire tes 10
Yes.
opportunités. Donc voilà. Et du coup, je pense que déjà, c'est important au début, c'est d'expliquer comment tu as sorti justement ce chiffre. Je te demande 30 appels, 20 appels, 150 appels. Je pense que c'est super important d'expliquer comment tu arrives au cheminement et pourquoi il faut faire ce chiffre. Et à partir de là, déjà, je pense que la personne le voit beaucoup moins comme quelque chose voilà, qu'il faut faire pour le faire et cocher une case, mais se rend compte en fait que c'est pour lui, pour qu'effectivement, il puisse arriver à ce qu'on appelle la output et l'objectif final. Après, j'en conviens, comme tu l'as dit, on peut faire ça au début et malgré ça, à un moment donné, il y a une baisse qui est down. Bah, encore une fois, je pense que si tu as recruté les bonnes personnes qu'on
Ouais.
désire justement de progresser, peuvent se remettre en question. Ben en fait, quand tu fais ton rendez-vous hebdomadaire, quand tu vois la personne, on dit one-on-one, En fait, ce qui est top, c'est quand la personne, elle arrive et en fait, elle fait sa propre analyse. Et elle te dit, ah, ben, effectivement, je sais que cette semaine, ça a moins converti parce que j'ai passé que X appels. Du coup, bah, mon plan d'action, il faut que je fasse tant la semaine prochaine. Et pour éviter le manque d'organisation que j'ai eu cette semaine, bah, je vais enlever ça de mon agenda. Je vais me réserver des créneaux spécifiques. Et voilà. Et en fait, bah, tu vois, la personne, elle a eu cette auto-analyse. Elle vient avec un plan d'action et tu es à peu près sûr que la semaine d'après, tu retombes pas là où tu étais la semaine d'avant.
Ok. Bon, du coup, en fait, en tout cas, tu m'as pas mal dit en fait que cette pression du shift pour toi, pour la gérer, c'est que tu vas vraiment te focaliser sur les inputs et moins sur l'output que tu peux pas, voilà, que tu peux pas contrôler. Après, j'ai une question, toi, d'un point de vue plus personnel, parce que bah t'es un manager, ok, t'as une équipe, t'as des super process, t'as une compréhension, etc. Mais il y a toi en tant qu'humain, comment tu gères en fait ces moments quand on est manager sales, on a des c'est les enfin moi j'appelle ça souvent les montagnes russes. Il y a des moments où tu es au top avec une adrénaline de malade mental, mais c'est incroyable, tu as l'impression d'être hyper puissant parce que les chiffres voilà sont incroyables. Et puis des moments qui peuvent être amenés parce qu'il y a le Covid, une crise économique ou parfois une baisse du moral de l'équipe. Bah là du coup tu es down. Comment tu fais toi d'un point de vue personnel pour tenir? Et pour justement que ça s'impacte, enfin, parce que c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait ton équipe, elle doit pas ressentir en fait tes stress et
Alors, je conseille à tout le monde, il faut avoir une activité pour exorciser justement cette pression. Alors, moi, c'est le running. Aussi bien dans les moments top, où du coup, je vais avoir cette adrénaline et voilà, je vais encore plus réfléchir, je vais partir dans tous les sens, avoir mille idées. Et voilà, mais le running m'aide en fait à, entre guillemets, m'échapper peut-être. Et les moments plus down, alors je pense qu'il y a une explication aussi physiologique, mais aussi... déstresser, lâcher, et voilà, on oublie tout le temps d'un run. Ou alors, on sait ce qui va pas, et le run permet peut-être de prendre un peu plus de hauteur, et mine de rien, de faire penser à certaines solutions. Donc voilà. Moi, c'est le running, mais je conseille toute activité, yoga, cuisine, musique. Je pense que c'est important, justement, de savoir sortir la tête de l'eau.
Ok. Du coup, on va clore l'épisode parce que on a parlé quand même pas mal de temps. Le temps est affilé super vite. Du coup, ce serait quoi le conseil que tu donnerais toi aujourd'hui à quelqu'un qui aimerait leader une team sales? Peu importe. Évidemment, SDR, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes mécanismes quand on lead aussi une équipe à eux. Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais, en fait, que tu aurais aimé avoir toi il y a au début, en fait, Spendesk?
Je pense qu'il ne faut pas déjà se mettre de barrière, dans le sens où peut-être, tu vois, je suis trop jeune ou je n'ai pas l'expérience. Peut-être encore plus, tu vois, les femmes, parce que je pense que le syndrome de l'imposteur nous guette plus. Mais justement, ben, tu vois, je le voyais avec des SDR, donc qui sont passés dans le management sans aller forcément à compte exécutif. Et je pense que certains sont mis des freins alors qu'ils avaient vraiment la pédagogie, des qualités de manager qui fait que voilà, c'était des super managers. Donc, pas se mettre de freins, prendre les opportunités quand elles sont là. Donc, si à un moment dans votre entreprise, bah, vous sentez que vous pouvez prendre plus de responsabilités côté management, bah, allez-y. Et peut-être que ça marchera pas, peut-être que vous serez déçu, mais au moins vous aurez testé et voilà, faut y aller. Donc, c'est le conseil que je donnerais.
Ok, trop bien. Eh bien, écoute, Aline, merci énormément pour tous les partages que tu as fait dans cet épisode. Je te remercie et écoute, je te dis à bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets ici. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Merci à toi, Laetitia.
Je t'en prie. Ciao.
Ciao.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.